bonsoir à tous et bienvenue sur les antennes de Radio 106.8 Toulouse. Sortie exceptionnelle, émission exceptionnelle, puisque depuis le 15 février 2012 est ressorti le chef-d'œuvre de Jean Renoir, La Grande Illusion. Donc grâce aux efforts conjurés de Studio Canal, de Carlotta Film et de la Cinémathèque de Toulouse. Et justement, la Cinémathèque de Toulouse, ça va être très important d'en parler aujourd'hui par rapport à La Grande Illusion, puisque on a la chance de recevoir Pierre Cadars, qui a été l'un des membres fondateurs de la Cinémathèque de Toulouse aux côtés de Raymond Borde, et qui a lui-même d'ailleurs dirigé cette institution entre 81 et 83, et 97 et 2005. Et je vous rappelle aussi que vous retrouvez Pierre chaque semaine sur les ondes de Radio, puisqu'il m'accompagne dans l'émission pour 35 mm de plus, chaque jeudi. Bonsoir Pierre.
Oui, je prends ma casquette d'ancien directeur.
Là, exactement, là, c'est là tu es dans le rôle de l'invité et c'est très, très bien pour nous de t'avoir aujourd'hui, puisque tu vas quand même pouvoir nous parler d'une histoire incroyable de ce négatif original qui s'est retrouvé donc dans les stocks de la Cinémathèque de Toulouse. Alors, comme je vous le disais, Carlotta Film vient de ressortir donc le film, et à cette occasion, nous avons des places à vous faire gagner. Donc, il suffit d'appeler les locaux de Radio au 05 345 111 89. 05 345 111 89. Donc, on a des places qui vous sont offertes par Carlotta pour ce film absolument génial et qui vient donc d'être restauré grâce aux efforts conjurés de Canal+, de la Cinémathèque de Toulouse. Alors, on va quand même commencer par Jean Renoir, qui est un cinéaste dont on a beaucoup parlé, dont on a beaucoup écrit et dont on attend, et ça devrait être pour la fin d'année, la biographie officielle qui est écrite par Pascal Mérigot, auteur notamment d'un Mankiewicz, et qui a reçu d'ailleurs, je ne sais pas si tu le savais Pierre, un nouveau prix qui a été créé à l'Institut Lumière, qui s'appelle le prix Raymond Chira, et qui encourage les travaux en cours.
Oui, alors je connais bien Raymond Chira, et je trouve que c'est très bien ce que fait l'Institut Lumière, d'aider comme ça une recherche sur le cinéma, mais ça se fait un peu partout en France, à Toulouse, à Lyon, c'est très bien.
Voilà, donc officiellement, cette biographie, qui va être la biographie officielle de Jean Renoir, devrait donc paraître en fin d'année. Alors, Jean Renoir, est, pour mieux comprendre et savoir quel homme il était, c'est le fils d'Auguste Renoir. Hein.
C'est ça, il est fils d'un des grands peintres impressionnistes qui vient au cinéma à l'époque du muet, qui avant hésitait un petit peu sur ce qu'il allait faire, ne savait pas s'il allait faire de la poterie, s'il allait faire autre chose, et qui est touché par le cinéma, est touché par les films américains, ceux de Charlot, ceux aussi de Stroheim, qu'on retrouvera tout à l'heure, et qui donc passe au cinéma dans les années 20 avec Catherine et puis beaucoup d'autres films.
Alors, il s'est engagé en 1912 dans l'armée, hein, puisqu'il a été donc maréchal des logis du 3e escadron, hein, sous les ordres du capitaine Bossu. Non, mais c'est important d'en parler, oui. parce que cette expérience de la guerre, de la Première Guerre mondiale, va donc ressortir à travers plusieurs films, et notamment la Grande Illusion, hein, puisque on parle de prisonniers de guerre. Et puis, effectivement, il est gravement blessé en 1915. Dans les Vosges, d'ailleurs, il boitera toute sa vie.
Oui, toute sa vie. Moi, j'ai eu le grand bonheur de rencontrer Renoir à la fin des années 50. C'est un monsieur qui avait énormément de charme. Puis c'était un monument, quoi. Pour quelqu'un qui, comme moi, avait 15 ans à l'époque et qui rencontrait Jean Renoir, c'était un petit peu comme rencontrer Dieu le Père. Et c'était donc un homme assez fort, assez rond, si je puis dire, l'œil très bleu, et puis qui boitait très légèrement, mais enfin, beaucoup d'allure.
Alors, il y a une première partie de carrière cinéma muet, hein, dont le film peut-être le plus célèbre est son adaptation de Zola avec Nana, qui fait en 1926. Et puis, il y a un passage au parlant qui va être assez fulgurant à partir de 1931, avec des films assez impressionnants. Hein. On pense bien sûr à Baudu sauvé des eaux, On pense à La Nuit du Carrefour, une adaptation de Simenon, dont d'ailleurs c'est son propre frère Pierre Renoir qui jouera le rôle de Maigret. Il y a aussi une adaptation de Flaubert avec Madame Bovary. Il y a un film très important, La Chienne, avec Michel Simon, qui sera...
qui était déjà présent dans Boudu et qui retrouve là un de ses grands rôles des années 30.
Tout à fait. Et puis Tony aussi en 1935. Et puis, il va avoir une période, celle qui va plus nous intéresser, puisque ça concerne la Grande Illusion, c'est ce que j'appelle, moi, son âge d'or, c'est-à-dire qu'en l'espace de 3 ans, dans une boulimie absolument incroyable, Jean Renoir va tourner 8 films qui sont à peu près... quasiment 8 dates importantes de l'histoire du cinéma français, voire mondial, puisque on retrouve quand même Le Crime de Monsieur Lange avec Jules Berry, une partie de campagne d'après Montpassant, mais on y reviendra parce que c'est un film qui a été un peu inachevé. La vie est à nous, un film qui avait été fait par rapport au Parti communiste, un film politique engagé. Commande, oui. Il y aura aussi une adaptation de la pièce de Maxime Gorki, Les Bas-fonds, et ça sera aussi sa première rencontre avec Jean Gabin et Louis Jouvet, très important aussi ces deux dates-là. Il y aura La Marseillaise avec Jouvet, La Bête humaine, superbe adaptation de Zola, La Grande Illusion, qui va bien sûr nous concerner lors de cette émission, et La Règle du Jeu, en 1939, avec Marcel Diallo, Gaston Modo, Julien Carrette, des acteurs qu'on retrouvait d'ailleurs aussi dans la Grande Illusion, avant un exil hollywoodien et une carrière américaine un petit peu en demi-teinte, hein, avec quelques films à la RKO et un studio comme la Fox qui l'engagera, enfin Daryl Evzanu qui l'engagera pour l'étang tragique d'ailleurs avec Dan Andrew et Walter Brehman. Ensuite, on avance un petit peu, ça sera le retour en France.
Oui. Après le fleuve qu'il tourne.
Après le fleuve qui va partir en Inde.
Qui va tourner en Inde et le Cosse d'Or qu'il tourne avec Anna Magnani qui est aussi un très beau Renoir.
Ah oui, un très beau Renoir, d'ailleurs, un des films préférés de François Truffaut.
Oui.
Et puis, alors, de la dernière période, on ne peut pas oublier Franche Cancan, qui est un petit peu un hommage à son papa.
Et où il retrouve Gabin, d'ailleurs.
Il retrouve Gabin pour la 4e et dernière fois. Et puis, des films très beaux que moi, j'apprécie beaucoup, comme Le Déjeuner sur l'herbe, avec Paul Meurice.
Qui est un hommage aussi à son père, avec Catherine Rouvel, avec la Provence, avec tout un climat ensoleillé, qui fait que Renoir prend plaisir à montrer une vie qui est une vie traditionnelle, qui l'oppose à tout ce qu'on peut craindre de l'avenir scientifique.
Et puis une œuvre qui mériterait d'être découverte aujourd'hui, qui réalise en 1962 avec une génération d'acteurs qui débutaient presque à l'écran, hein, puisqu'on retrouve Cassel, Brasseur, Claude Riche, Jean Carmet, Guy Bedos, c'est le Caporal épinglé.
Oui, qui est un petit peu le pendant de La Grande Illusion, c'est-à-dire qu'on retrouve des thèmes qui sont communs, mais pas tout à fait dans le même esprit.
Voilà, donc une carrière très riche, hein. On sait que Renoir tournera...
Oui, il y a également Le Testament du docteur Cordelier, voilà. Qui est un film qui tourne avec des moyens très souples, avec Jean Louis Barrault dans le rôle principal et qui est un film tout à fait intéressant aussi à revoir. Il faut dire que toute la carrière de Renoir est une carrière passionnante.
Et puis dernier film à la fin des années 60 avec Le Petit Théâtre de Jean Renoir.
Tout à fait.
Que je n'ai jamais vu.
Mais moi, hélas, non plus.
C'est difficile à voir. Hein.
Mais bon, il faut dire que Renoir a été un cinéaste. Le cinéaste préféré peut-être de tous les écrivains, critiques et réalisateurs ensuite de la nouvelle vague.
Ah oui.
C'était pour eux l'exemple même du cinéaste qui à la fois aimait ses acteurs et ses actrices et qui, sur un tournage, laissait une certaine liberté, une improvisation par rapport à d'autres metteurs en scène de la même époque, du type Carnet ou du Vivier. Renoir n'était pas un tyran, n'était pas un dictateur, c'était au contraire quelqu'un qui arrivait à ses fins, mais par la souplesse. Et je crois que c'était là que beaucoup de ce style de cinéma, que beaucoup de jeunes cinéastes ont essayé de trouver des exemples.
Tout à fait. Ensuite, ça sera, il va prendre sa retraite en Californie. Hein,
il avait pris la nationalité américaine dans les années 40, et donc il finit sa vie.
Donc il s'installe à Beverly Hills. Il va écrire plusieurs livres, notamment donc Ma vie et mes films, qui est une très belle biographie, hein, autobiographie qu'il a écrite. Et puis il va écrire aussi sur son papa. Auguste Renoir, il y aura plusieurs livres qui relatent donc la vie et l'œuvre de son père. C'est une période très très troublante parce qu'à ce moment-là, il va avoir une relation assez privilégiée avec François Truffaut, qui va venir le voir chaque été donc à partir de 73 jusqu'à sa mort en février 79. Ils vont se voir régulièrement. Renoir qui espérait quand même un petit peu comme Hitchcock peut-être revenir à la mise en scène quoi.
Oui. Il y a plusieurs projets qui ne sont pas totalement aboutis, mais bon, Renoir n'avait pas besoin de tourner pour vivre, mais je pense qu'il gardait un attachement très fort au cinéma et également un souci de, on en reparlera aussi tout à l'heure peut-être, faire ressortir certains de ses films, dont La Grande Illusion qui lui tenait particulièrement à cœur.
Alors justement, on va s'intéresser à l'époque de la sortie de La Grande Illusion. Donc le film sort sur les écrans en 1937. Et j'aimerais que Pierre, tu reviennes un petit peu sur le climat qui régnait à ce moment-là en France et en Europe, puisque beaucoup de choses étaient en train de changer.
Ben oui, là je prends ma casquette d'historien ou d'ancien historien. C'est une époque qui est une époque très tendu, très troublé. Hitler a pris le pouvoir en 1933. La menace allemande est de plus en plus forte. On sait ou on se doute qu'une guerre est désormais possible, ne serait-ce qu'à cause de l'avancée de l'Allemagne et de la politique de l'Anschluss qui fait que petit à petit l'Autriche, la Tchécoslovaquie menacent également de tomber sous le joug allemand. Donc, période internationalement très tendue et du fait également que, aussi bien en Italie qu'en Allemagne, il y a des dictatures, appelons-les de droite, et qu'au même moment, en Union soviétique, il y a également un régime très autoritaire qui est celui de Staline. En France, il y a eu une évolution politique qui fait qu'en 1936, c'est le Front populaire, c'est-à-dire que c'est la gauche, le Parti radical, le Parti socialiste, le Parti communiste, qui arrivent au pouvoir alors qu'on ne s'y attendait pas trop, et avec toutes sortes de mesures nouvelles, comme les congés payés et d'autres choses encore. Donc, dans les milieux politiques comme dans les milieux artistiques, on se trouve à une époque charnière et à une époque où le cinéma est également un art qui a gagné un très large public. Donc les films peuvent apporter un message dans cette Europe et dans cette France politiquement très tendue. Hein, et ce sera le cas de La Grande Illusion qui arrive en 1937, donc un an après les débuts du Front populaire. Renoir et la plupart des personnes qui participent au tournage sont, pour aller très vite, considérés comme des gens de gauche, militants certains, et ils ont déjà donc tournée où il se prépare à tourner des films qui vont dans l'esprit de l'époque. C'est « La vie est à nous oui. », qui est un film de propagande, qui est financé par le Parti communiste et que Renoir fait très volontiers. Il va tourner après « La Marseillaise », qui est également une sorte de film qui, à la fois, est un film montrant la révolution du côté populaire, c'est la révolution vue par les simples soldats, si je puis dire. Bah, et c'est ce qui est passionnant dans le film. Mais en même temps, là, on voit tout à fait, j'aime beaucoup la Marseillaise, parce qu'on voit la vie à tous les niveaux, aussi bien le roi dans son quotidien, découvrant qu'il peut manger des tomates, que le Marseillais qui s'est enrôlé et qui se demande ce qu'il attend. Ça, c'est le film qui va venir après. Donc, on est dans une époque militante, appelons-la comme ça. Et La Grande Illusion apparaît comme à la fois un film tout à fait dans l'esprit du temps, mais un film un peu à part par son message même.
Et oui, alors, un petit peu à part, et puis un peu controversé, puisque on a reproché à Renoir
de faire un film pacifiste. et pour le et un film qui montrerait que l'entente avec l'Allemagne est possible.
Voilà, c'est ça. C'est de toute façon, Renoir était un humaniste avant tout. Hein, il s'intéressait à l'humain, et c'est vrai que toute forme d'héroïsme n'est pas présente vraiment dans son film. Et on lui a d'ailleurs reproché ça à la sortie du film.
C'est ça. C'est-à-dire que bon, rappelons quel est le sujet de La Grande Illusion. La Grande Illusion, c'est un film qui se passe pendant la Première Guerre mondiale, et où il y a des soldats français qui sont faits prisonniers et qui finalement sont transférés dans une sorte de fort qui est dirigé, qui est sous l'autorité d'un Allemand, d'un Junker, c'est-à-dire d'un officier allemand. Donc on assiste dans une première partie du film à ce qu'est la vie difficile, mais également le quotidien tout banal de ces prisonniers dans ce fort. Et ensuite, deux d'entre eux réussissent à s'évader. Ils s'évadent en essayant d'aller vers la frontière, vers la Suisse. Et là, il y a la rencontre entre le personnage principal interprété par Gabin, le lieutenant maréchal, avec une Allemande dont le rôle est tenu par Dita Parlo, Elsa. Et c'est une rencontre, tout d'un coup, il y a un amour qui naît comme ça, pour l'espace d'une nuit ou de peu de temps. Et
on qui sait pas ce est une actrice allemande, d'ailleurs.
Qui est une actrice allemande. Dita Parlo était allemande, et restée d'ailleurs de nationalité allemande, ce qui lui a valu quelques ennuis en 1940, et s'était signalée par son rôle dans le film de Jean Vigo, L'Atalante, qui avait été, avant La Grande Illusion, son grand rôle au cinéma, et grand rôle qui reste dans l'histoire du cinéma. Donc, il y a cette rencontre avec l'Allemande, et puis après, l'évasion, on ne sait pas ce qui les attend par la suite.
Alors, il y a plein d'anecdotes riches hein, sur la Grande Illusion, la manière dont Jean Renoir a essayé de financer son film, hein, parce que il se retrouvait dans une situation financière pas très forte hein, avant le film. Et c'est vrai que Jean Gabin s'est beaucoup investi de sa personne pour que le film se fasse. Il y a aussi les difficultés avec Charles Spack, qui est le co-auteur du scénario. Hein, donc il y a beaucoup de choses à dire sur la relation Renoir-Spack.
Oui, c'est-à-dire que c'est un sujet, on le sait, qui tenait à cœur pour Jean Renoir. Il y pense dès 1930, quand il tourne quelques années avant, Tony par exemple. Et pour lui, c'est à la fois une manière de revenir sur certains souvenirs de guerre. Oui. C'est également, sincèrement je pense, l'idée de faire un film qui va être un film qui portera un message humaniste pacifiste, à une époque donc très tendue.
Il espérait même au fond de lui que ce film empêche le conflit terrible qui allait éclater en Europe en 1939.
Oui, mais il y a jusqu'à cette époque-là, c'est intéressant de voir que jusqu'à, par exemple, la veille de la guerre, dans 1939, quelqu'un comme Giono, par exemple, écrivain français, donc, va défendre l'idée qu'il ne faut pas faire de guerre, il faut essayer de trouver une entente, même si ce sont des personnes qui sont violemment anti-nazis. Mais l'idée que la guerre, c'est la pire des choses, qu'il faut tout faire pour l'éviter. Mais ce qui est intéressant dans La Grande Illusion, à mon avis, c'est que non seulement il y a une approche de la vie de prisonniers, le quotidien de ces prisonniers, mais il y a aussi une étude, et ça c'est tout à fait dans l'esprit du Front populaire ou de l'époque, de la société en classe. C'est-à-dire qu'on sent très bien dans le film que d'une part, il y a des prolétaires ou des gens du peuple, c'est les personnages joués par Gabin, le lieutenant maréchal, par Carrette, Cartier, par Gaston Modo, etc. Mais Marcel Dalliot aussi, qui est un juif, Rosenthal. Et puis d'autre part, il y a des aristocrates, un aristocrate allemand qui est joué merveilleusement par Eric von Stroheim, c'est le capitaine von Rauffenstein, et en face de lui, un français, le capitaine de Boieldieu, donc ce sont deux nobles, et finalement on s'en rend compte qu'entre un noble allemand et un noble français, il y a moins de différence qu'entre peut-être un noble français et un simple soldat de base français. Et ça, cette étude est très, très habilement faite. Alors, ça tient à Charles Spack, ça tient aussi beaucoup, je pense, à Renoir.
Alors, la construction du film est aussi très intéressante, puisque le film s'ouvre vraiment sur un groupe hein, de soldats avec des seconds rôles qui sont merveilleusement écrits. On pense à Gaston Modeau, à Julien Carrette, tout ça. Et puis, le film va vers un resserrement, puisqu'après, on passe donc dans la forteresse qui est dirigée par le commandant. Von Stroheim, où là on est plutôt dans un trio Freinet, Gabin, Stroheim, et puis le film se retrécit encore avec l'évasion réussie de Marcel Diallo et de Jean Gabin, et cette histoire d'amour
avec Dita Parlo, avec l'Allemande Elsa.
Avec l'Allemande qui nous remet dans une situation à trois. Donc c'est merveilleusement construit quand même ce film.
C'est merveilleusement construit. Bon, il faut quand même rappeler que Charles Spack n'était pas n'importe qui. C'était un grand scénariste. C'est le plus grand scénariste avec Janson et avec Prévert dans le cinéma français de cette époque. Il a beaucoup fait des scénarios déjà pour Feder, Le Grand Jeu, La Kermesse Héroïque, pour Duvivier, La Bandera, La Belle Équipe, plus tard Panique. S'il a collaboré ou il va collaborer encore avec Grémillon, Gueule d'amour, Le ciel est à vous. Donc c'est l'un des grands scénaristes qui sait parfaitement trousser un scénario, faire un film, et avec une personnalité qui est peut-être moins forte que celle de Janson ou celle de Prévert, mais qui est quand même tout à fait remarquable. On s'en rend compte jusque dans ses derniers films. Il a fait le scénario plutôt, l'adaptation de Thérèse Raquin pour Carnet un peu plus tard. Donc là, il y a tout un travail sur le scénario. Comme tu le disais tout à l'heure, ça a posé quelques problèmes. C'est-à-dire qu'il y a même eu un procès de quelqu'un qui avait écrit un bouquin sur ses souvenirs de guerre et qui a trouvé qu'on lui avait piqué plusieurs idées dans le film. Il n'empêche que tel quel, et comme nous pouvons le voir encore aujourd'hui à l'écran, c'est l'un des témoignages les plus profonds, les plus justes, je crois, pour la période de la guerre, mais une guerre dont on ne voit pas les combats. C'est-à-dire que ce n'est pas Les Croix de Bois, ce n'est pas un film militaire, mais c'est un film où il est constamment question de guerre, mais de la part de prisonniers. Ce que refera d'ailleurs plus tard Renoir dans Le Caporal Épinglé.
Et puis alors, il y a une liberté de ton qui est assez incroyable dans les dialogues. Hein. On sait même qu'il y a une scène qui a été coupée où on voit Gabin avec ses collègues en train de se moquer des maladies.
Des maladies vénériennes. Avec des sous-entendus.
Donc ça, c'est pratiquement du politiquement incorrect, ça. C'est incroyable.
Oui, mais en même temps, c'est le souci de montrer. Je crois que Renoir était quelqu'un qui aimait profondément la vie. Et la vie, comme son père, ça se sent dans la peinture d'Auguste Renoir, ça se sent dans le cinéma de Jean Renoir. Et donc, il y a cette sorte de chaleur humaine qui apparaît constamment dans ses films. Et dans la grande illusion, a priori, le sujet ne s'y prêtait pas. Or, constamment, je pense par exemple à la scène où il y a des prisonniers se retrouvent dans ce fort, s'ennuient, donc font des petites fêtes entre eux pour passer le temps.
Se travestissent.
Et on apprend tout à coup qu'il y a eu une victoire française. Et aussitôt, donc, il chante la Marseillaise. Et ça, c'est un grand moment de cinéma. C'est-à-dire ce moment où on peut réussir en peu de temps à basculer de la franche rigolade au patriotisme le plus à fleur de peau.
Autre aspect complètement maîtrisé par Jean Renoir, c'est les rapports absolument fascinants entre Beaulieu et Rothenstein. Alors, je vous rappelle d'ailleurs que le rôle de Beaulieu...
Boieldieu.
Qui est joué par Pierre Freinet, avait été proposé à Louis Jouvet, qui avait donc refusé le rôle. Et il y a une vraie réussite entre les deux personnages, deux aristocrates de deux pays totalement différents en guerre, mais avec un respect mutuel énorme entre les deux personnages. Et même une confrontation assez violente entre les deux, mais qui est magnifique, quoi.
Oui, parce que c'est passionnant de se dire que, d'abord, il y a Stroheim. Stroheim, c'est pas n'importe qui. C'est l'un des grands cinéastes du cinéma muet américain.
Oui, une petite anecdote sur Stroheim. Renoir était fasciné par cet homme-là, fasciné par le travail cinématographique de films comme Les Rapaces ou Folie de femme. Et d'ailleurs, tu sais qu'au début, ça n'a pas toujours été facile, puisque Stroheim avait du mal à se faire diriger par Renoir.
Et puis, il est arrivé sur le plateau avec ses exigences. Ce n'était pas quelqu'un de facile. C'est lui, Stroheim, qui a l'idée de la Minerve, qui lui donne une attitude encore plus raide. Rigide. C'est lui également qui exige que dans ce qui est sa résidence, son fort, dans le château, ça a été tourné dans le Haut-Königsbourg, donc aux portes de l'Alsace, il y ait des photos de cantatrices, le moindre détail est voulu par Stroheim. Mais pour revenir à Freinet, donc qui finalement hérite du rôle de Boieldieu, rappelons que Freinet auparavant, il avait tourné surtout la Pagnol.
Chez Pagnol.
C'est-à-dire, il avait une image qui, pour le cinéma, n'était pas encore une image très claire. Il avait tourné avec un faux accent marseillais dans les films de Pagnol, mais il n'avait pas eu encore de très très grand rôle au cinéma. Or, La Grande Illusion lui donne un rôle de tout premier plan.
Alors, et une autre chose encore sur La Grande Illusion, Pierre, c'est ces espèces d'accords qu'il y a eu sur la sortie du film en Europe. Alors, je relisais une anecdote assez incroyable avec l'Italie, où les distributeurs ont négocié la sortie de La Grande Illusion en Italie contre la sortie de Scipion l'Africain, qui était un film ouvertement fasciste sur le sol français.
Oui, le film, pendant le tournage, la presse française parle beaucoup de La Grande Illusion. On sait que c'est un film qui est important, un film qui va apporter quelque chose de nouveau qu'on ne sent pas toujours au cinéma. La sortie est une sortie qui se passe fort bien. Le film est bien accueilli généralement, sauf rare exception. La presse est à peu près unanime pour saluer et la qualité du film, le courage d'un tel sujet et la qualité de l'interprétation. Le film ensuite commence une carrière internationale et présentée au Festival de Venise, qui était le tout nouveau Festival de Venise, où il est plutôt bien accueilli, mais il est, pour ce qui est de la sortie du film en Italie, problème, ce n'est pas politiquement très correct pour l'époque fasciste. On ne sait pas très bien ce que cache cette bonne entente entre Français et Allemands. Donc la critique italienne, presque unanimement, descend le film. Et pour que le film puisse être diffusé dans les cinémas italiens, il y a donc cette idée d'un échange. La France passera Scipion l'Africain, qui est un film de propagande italien, où de toute évidence il y a une image du Duce et de Mussolini dans le rôle de Scipion. Et en revanche, La Grande Illusion pourra passer en Italie, mais n'a pas une grande carrière à l'époque.
Allez, on continue toujours à vous parler donc de La Grande Illusion qui vient de ressortir donc depuis le 15 février à Toulouse et surtout dans pas mal d'écrans en France. Donc à Toulouse, vous pouvez le voir bien sûr à l'Utopia. Et d'ailleurs, à ce propos, on a des places à vous faire gagner, offertes par Carlotta. Donc je vous rappelle que vous pouvez appeler au 05 345 111 89, 05 345 111 89. Et le film sera aussi bien sûr présenté dans le cadre de Zoom arrière qui aura lieu à partir du 9 mars à la Cinémathèque de Toulouse.
Thank you.
Allez, vous êtes toujours sur Radio Radio 106.8 et on est toujours en présence de Pierre Cadars. Oui. Et on parle bien sûr de la ressortie de La Grande Illusion qui vient donc d'être restaurée grâce au studio Canal+, à Carlotta Film et à la Cinémathèque de Toulouse. Alors on vient d'écouter justement un petit morceau de Joseph Cosma qui a composé la musique du film. Nous avons malheureusement pas retrouvé un extrait CD de La Grande Illusion, mais on a quand même pu écouter la très belle musique de La Ferme des Sept Péchés, donc du grand compositeur Joseph Cosma. Alors Pierre, on va passer au sujet le plus chaud de l'actualité pour nous concernant La Grande Illusion et la Cinémathèque de Toulouse, c'est l'histoire de ce fameux négatif original qui a été donc retrouvé dans les stocks de la Cinémathèque. Comme tu as été l'un des membres fondateurs à côté de Raymond Borde de cette institution à Toulouse, j'aimerais un petit peu que tu nous parles, que tu nous dévoiles un petit peu les secrets de ce négatif qui s'est retrouvé donc dans les collections de la Cinémathèque de Toulouse.
Oui, un sujet chaud mais qui commence pendant la guerre froide, si je puis dire. La Cinémathèque de Toulouse donc existe officiellement depuis 1964, mais avant déjà, Raymond Borde avait commencé à rechercher des films, a commencé à mettre en place une collection, et une collection qui était une collection trouvée un peu partout, au moyen du bord. Il faut savoir que la vie des films est parfois une vie très aventureuse. En 1964, la Cinémathèque de Toulouse est donc créée officiellement, et l'année suivante, elle est acceptée au sein de la Fédération internationale des archives du film, qui, depuis l'avant-guerre, elle a été créée, la FIAF, en 1937, si j'ai bonne mémoire, regroupe les principales cinémathèques dans le monde. Mais il faut préciser aussitôt que la Cinémathèque française, pour des questions de désaccords internes, n'en faisait plus partie à cette époque. Donc, ipso facto, la Cinémathèque de Toulouse devient la Cinémathèque en France qui est membre de la FIAF. Raymond Borde, donc, très vite, participe aux différentes réunions de la Fédération internationale des archives du film et se lie d'amitié, je crois que le mot n'est pas trop fort, avec le directeur de la Cinémathèque de Moscou, le Gosfilmofond, qui s'appelle Victor Privato, et qui est un homme très puissant, mais un homme de l'ombre, qui, je l'ai rencontré à cette époque-là, c'était un homme qui avait une grande classe, qui avait réussi à avoir une carrière à l'époque stalinienne, ça veut dire qu'il était assez souple dans ses attitudes. Il avait été, semble-t-il, directeur des cirques de Moscou et ensuite directeur de la Cinémathèque. Et donc, une entente se passe fort bien entre Raymond Borde et Victor Privato, et il est décidé de faire des échanges dans les collections. La Cinémathèque de Toulouse a parfois des films en double, récupérés à droite à gauche en France. Moscou est alors l'une des cinémathèques les plus riches du monde. Plus riche parce qu'à la fois il y a toute la mémoire du cinéma soviétique, mais également, et ça c'est plus curieux et on ne s'en rend pas toujours compte, parce que du fait de la guerre, les Russes ont récupéré une partie du fonds de la Cinémathèque de Berlin, le Reichsfilmarchiv, qui était la cinémathèque créée également dans les années 30 par Hitler, mais le Reichsfilmarchiv, en 1940-41, avait récupéré déjà dans un premier temps une partie de collection de producteurs français. Donc ça veut dire que pour certains films, le voyage est assez curieux. Ils sont récupérés par les Allemands au début de l'occupation, transférés à Berlin au Reichsfilmarchiv. Ensuite, en 1945, quand les Russes arrivent conquérant en Allemagne, ils récupèrent une partie du fonds du Reichsfilmarchiv et les transfèrent à Moscou. Donc Moscou, au début des années 60, a à la fois tout ce fonds russe, une partie importante du fonds allemand, et également des films français qui n'existe plus en France. Il faut rappeler que les cinémathèques restent encore des associations extrêmement indépendantes. Le dépôt légal des films n'arrivera qu'à la fin des années 70 en France. Donc ça veut dire qu'aussi bien la Cinémathèque française que la Cinémathèque de Toulouse peuvent travailler dans un climat de liberté absolue et que le statut des films, il n'y a pas beaucoup de personnes qui s'en occupent.
Mais on récupère ce qu'on récupère.
On récupère ce qu'on récupère, et tant mieux, c'est autant de sauvés. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à partir de 1965, et cela pendant une dizaine d'années pratiquement, il va y avoir des échanges très réguliers entre Toulouse et Moscou. Toulouse envoie des films, Moscou en envoie en échange. À cette époque-là, il faut préciser que les films ne sont pas tous des films sur support acétate, c'est-à-dire non inflammable, qu'il y a aussi des films sur support nitrate, comme ça existait dans un premier temps, donc qui sont inflammables. On devine d'ailleurs tous les ennuis qu'il aurait pu y avoir dans ces transferts où un film pouvait très bien, ça, c'est arrivé par-ci par-là, prendre feu. Hein, la pellicule nitrate est quelque chose d'ultra fragile. Donc, parmi ces nombreux films échangés, Borde faisait des listes disant « j'aimerais bien, est-ce que vous n'avez pas par hasard tel film français ou tel film américain récupéré ici ou là qui pourrait nous intéresser pour nos collections ?» Et donc, il y avait constamment des échanges de ce type. Donc, dans ces échanges, il y a Moscou envoie une copie nitrate de La Grande Illusion. Et je dois dire que dans un premier temps, bon, on s'est dit, tant mieux, ça permet à Toulouse d'avoir une copie de La Grande Illusion, pas tellement utilisable, puisque le film était déjà ressorti, et on le met sur des rayons. Et ce n'est qu'au début des années 80 qu'on se rend compte que cette copie originale de La Grande Illusion est beaucoup plus complète que toutes celles qui étaient ressorties, y compris avec la bénédiction de Jean Renoir, que ce soit juste au lendemain de la guerre ou plus tard à la fin des années 50. Donc, début années 80, on découvre, lorsqu'il faut transférer tous les films nitrates depuis Toulouse jusqu'à Bois d'Arcy, puisque désormais en France, il y a un lieu, le service des archives du film de Bois d'Arcy, qui a pour charge de récupérer toute la pellicule nitrate et de restaurer, si possible, certains de ces films. Le film est envoyé à Bois d'Arcy et c'est là que donc on se rend compte que c'est la meilleure copie existante, qu'on revient à une copie originale. Donc il y a une première restauration du film qui se fait par Bois d'Arcy, qui est présentée d'ailleurs à Toulouse en 1997, lorsque la Cinémathèque change de locaux. Mais la restauration récente qui est faite par la Cinémathèque de Bologne est encore plus intéressante, parce qu'on a pu restaurer à la fois avec les nouvelles technologies et l'image, et surtout le son.
Voilà, il y a un énorme travail qui a été effectué sur le son, oui.
Alors donc, ça permet d'avoir maintenant, et c'est la copie qui ressort grâce à Carlotta, une grande illusion à l'état neuf, comme pouvaient le voir les spectateurs de 1937, et avec également un son qui est peut-être même meilleur que ce qu'il pouvait être à l'époque dans certains cinémas. Donc c'est très intéressant de voir ce qu'a été comme ça le travail de Cinémathèque. On s'en rend pas toujours compte, mais lorsque des films, et Carlotta est bien placé pour en parler, les responsables de Carlotta, on ne ressort aujourd'hui des films anciens que grâce au travail qui a été accompli, et accompli souvent dans l'ombre, par les Cinémathèques pendant des années et des années.
Et oui, et à Toulouse, vous avez fait quand même un travail assez remarquable des collections.
La Cinémathèque de Toulouse n'est pas, à la différence de la Cinémathèque de Bologne, une cinémathèque qui a des laboratoires pour restaurer les films anciens. Ça, c'est une spécialisation très pointue qui demande tout un appareillage, si je puis dire, extrêmement au goût du jour, aux dernières technologies. Mais la Cinémathèque de Toulouse est, et est encore, Natacha Laurent s'en occupe aujourd'hui et fort bien d'ailleurs, continue à récupérer des copies, à garder des copies et surtout... ce qui est très important quand on se penche sur ce passé de la Cinémathèque de Toulouse, certes, il y a eu des copies comme La Grande Illusion, mais les choix, et je pense qu'il avait pleinement raison, les choix de Raymond Borde, qui est le fondateur et qui est l'homme qui a le plus pesé...
Le père spirituel.
Le père spirituel, c'est le Renoir de la Cinémathèque de Toulouse, si l'on veut, mais... pourrait dire beaucoup de choses, mais c'était de ne pas faire de choix, c'est-à-dire de ne pas rechercher que des chefs-d'œuvre, mais également de prendre des films de série B, de films plus mineurs, et on se rend compte avec le temps que ce sont des films qui ont pris beaucoup de poids. Et je reviens à ces échanges entre Moscou et Toulouse. Ce qui est passionnant, c'est de se dire que, aussi bien du côté Bord par rapport à Moscou que du côté Victor Privato, responsable de la Cinémathèque de Moscou par rapport à Toulouse, ben, de temps en temps, dans ces échanges qui étaient devenus des échanges réguliers, il y avait de petits cadeaux, il y avait dire « Tenez, on vous envoie cette copie, vous savez peut-être pas quel film c'est, mais c'est un film important, vous allez le voir. » Et il y avait très souvent de très bonnes surprises.
Et la Cinémathèque de Toulouse envoyait quel genre de films à Moscou?
Des films français, bien sûr. C'est-à-dire à une époque où, on peut le dire maintenant, il y a prescription, beaucoup de films en bout d'exploitation étaient envoyés à la casse, c'est-à-dire qu'il y avait chez les distributeurs une nécessité de détruire les copies d'un film lorsqu'il n'était plus en exploitation, mais certains distributeurs étaient moins exigeants, moins, disons, acceptaient de ne pas tout détruire. Et également, au tout début de la Cinémathèque de Toulouse, il faut se rappeler que dans les années 50 encore, il existait des tourneurs, on les appelait comme ça, c'est-à-dire des gens qui présentaient des films anciens ben, dans des campagnes, dans des kermesses, dans des endroits les plus incongrus. C'était parfois des gitans qui avaient récupéré quelques copies et qui passaient des films. Bon,
c'est cinéma paradisio presque. Quoi.
Absolument, absolument, mais qui se faisait dans des conditions tout à fait incroyables et avec tous les dangers, on se rend compte avec du recul, de présenter des films sur support nitrate.
Et dis-moi une chose, Pierre, ce qui m'intéresse, c'est comment se faisait exactement le quota ou les négociations de film à film? C'était donc Raymond Bord et le directeur de la Cinémathèque de Moscou qui... C'était vraiment film par film ou alors on se faisait un petit colis?
Non, c'est ce qui peut sembler incroyable, c'est-à-dire que ça se faisait entre... Ben, c'est un petit peu comme si
bouteille
c'était...
Bouteille de vin rouge.
Non, c'est un peu... C'était Rauffenstein et Boieldieu. C'est-à-dire que ça se faisait entre personnes qui savaient vivre.
D'accord.
Donc, ils ne comptaient pas « je vous envoie 5 films » ou « vous m'en envoyez 5 ».
Et, oui.
Et là, je dois dire que, moi j'ai dit bien, j'ai rencontré qu'une fois, il ne parlait pas français, je ne parlais pas russe, il parlait d'ailleurs d'un être tout à fait mystérieux, Victor Privato, qui était alors le conservateur et le grand chef de la cinémathèque russe, du Gosfilm au fond, c'était quelqu'un qui avait une classe incroyable. Et qui me rappelle, c'est juste une anecdote, il y avait eu un congrès du comité directeur de la Fédération internationale des archives du film, et j'avais ramené Victor Privato à l'aéroport, à Blagnac, en voiture, et donc je l'ai ramené, on s'est salué en ne disant pas un mot, puisqu'il n'y avait aucune langue commune entre nous. Et puis après, revenant à ma voiture, il y avait un petit cadeau, une bouteille de vodka qu'il m'avait laissé très délicatement sur le siège arrière. C'est la classe.
Alors, je vous rappelle que La Grande Illusion est ressortie depuis le 15 février donc au cinéma donc Utopia à Toulouse et sera présentée dans le cadre du festival Zoom arrière à la Cinémathèque de Toulouse à partir du 9 mars. Qu'il y a des places généreusement offertes par Carlotta, donc vous pouvez rappeler à la radio, je vous redonne encore le numéro 05 345 111 89, 05 345 111 89. Il nous reste quelques instants. Pierre, tu voulais dire une dernière petite révélation, quelque chose pour conclure cette histoire assez incroyable de ce négatif original de La Grande Illusion qui s'est retrouvé donc dans les stocks de Toulouse?
Non, mais je pense qu'il y a encore, et Natacha Laurent a fait tout un travail tout à fait remarquable pour cela, il y a encore dans les fonds de la Cinémathèque de Toulouse ou dans les échanges qui ont pu se faire ou les dépôts qui ont été faits avec Bois d'Arcy, service des archives du film, il y a sûrement des films à redécouvrir. Et c'est ça qui est passionnant, c'est-à-dire que quand on voit, comme actuellement, le succès de The Artist, parlons d'actualité à Hollywood, on se dit qu'il y a un retour vers le cinéma ancien et c'est formidable.
Ah oui.
C'est-à-dire que les meilleurs acteurs, les meilleurs cinéastes actuels sont des cinéphiles. Et donc, ressortir des films anciens, redonner vie à des films anciens,
d'ailleurs,
c'est un travail prodigieux et un travail que font remarquablement des éditeurs comme Carlotta.
Et d'ailleurs, à ce propos, Carlotta va bientôt sortir au mois d'avril un coffret de la Fondation Scorsese, donc la Fondation Scorsese qui est très importante et qui ressort et restaure aussi des films très rares. Un premier coffret sortira au mois d'avril.
Alors, est-ce que je peux émettre un vœu
oui.
qui s'adresse à Carlotta et aux éditeurs qui retravaillent sur des copies anciennes, il y a un film qui n'est pas ressorti encore en DVD et qui est tout à fait représentatif de la sensibilité de l'avant-guerre, c'est La Belle Équipe.
Ah oui.
La Belle Équipe de Duvivier avec Gabin, donc c'est la même époque que La Grande Illusion, est un film qu'on aimerait beaucoup revoir. Alors il me tarde de revoir La Belle Équipe en DVD.
Écoute Pierre, merci pour tout, pour toutes ces histoires assez incroyables de la Cinémathèque de Toulouse et de La Grande Illusion. Je vous rappelle que le film est donc en salle en ce moment même, grâce à un Carlotta, que je vous conseille vivement, en attendant la biographie officielle de Mérigot, de lire « Ma vie et mes films » de Jean Renoir. Hein, c'est sorti chez Flammarion, vous pouvez le trouver assez facilement. Et qu'une bonne partie des films de Jean Renoir sont disponibles en DVD donc sur le marché français, que ce soit La Bête humaine, que ce soit Déjeuner sur l'herbe. Et d'ailleurs, à ce propos, décidément, Carlotta fait les choses en grand et très bien. Il y a Le Fleuve, ce fameux film que Renoir est allé tourner en Inde, à côté de Satyajit Ray, qui ressort donc au mois de mars en DVD dans une très très belle copie. Voilà, je vous remercie à tous. Je te remercie surtout à toi, Pierre. Et puis, il faut aller voir La Grande Illusion, qui est donc jouée en ce moment même à Toulouse, au cinéma Utopia. À très bientôt sur les ondes de Radio 106.8 Toulouse.